Bonjour et bienvenue dans The Storyline, le podcast qui part à la rencontre des experts du storytelling et des créateurs de contenu. Je suis Noémie Kempf et deux fois par mois, j'invite un ou une experte du storytelling et du marketing pour décrypter les stratégies qui font le succès et la désirabilité des marques. Chaque épisode se concentre sur un cas d'usage concret ou une industrie spécifique. Si vous souhaitez aller plus loin, The Storyline, c'est aussi deux fois par mois une newsletter qui reprend le sujet abordé durant l'interview et l'approfondit. Dans la newsletter, je vous offre des outils, des ressources et je vous partage des références qui vous permettront de creuser les sujets qui vous intéressent. Je vous invite donc à vous y inscrire à l'adresse thestoryline.substack.com. Aujourd'hui, cap sur l'univers des influenceurs avec Audrey, créatrice du compte Instagram Vos Stars en Réalité, qui décrypte et dénonce le côté obscur de l'influence. Avec Audrey, on discute des pratiques malveillantes mises en place par certains influenceurs sur les réseaux sociaux et du futur de l'influence en ligne. Bonne écoute! Salut Audrey!
Bonjour!
Bienvenue dans The Storyline!
Merci de l'invitation!
Oui, bah merci de l'avoir accepté. Avec grand plaisir, je t'ai couru après et je suis ravie de t'avoir en face de moi. Ça fait longtemps que je te suis sur Instagram où tu es plus connue sous le nom de Vos Stars en Réalité et où tu parles des débordements commis par les influenceurs. En tout cas, tu appelles à la prudence et au sens critique vis-à-vis des claims de certains influenceurs pas forcément très bien intentionnés et on va en parler plus en détail dans l'épisode. Est-ce que tu peux nous parler un peu, avant de commencer tout ça, de toi? Qui es-tu? Quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à créer ce compte Instagram il y a pas si longtemps que ça?
Alors, j'ai créé le compte Instagram en 2019. Mm-hmm. C'était suite à une pause professionnelle.
Ouais.
Donc, j'étais cadre dirigeante. Et du coup, j'ai fait une pause parce que j'avais un rythme de vie en déplacement national. Donc, j'étais beaucoup dans les avions, les trains, les voitures. Je courais tout le temps et je voyais plus trop ma famille, pas trop mes enfants. Et je me suis dit, bon, c'est le moment de couper un peu ce rythme effréné. Et du coup, je mets quelques mois à me remettre un petit peu de cette fatigue accumulée parce que j'avais vraiment accumulé beaucoup de fatigue.
J'imagine.
Pour le coup. Et quelques mois plus tard, j'ai une copine qui me dit « Oh, je trouve quand même que tu es en perte d'activité, tu devrais aller sur Instagram, tu vas trouver plein de choses pour tes enfants, tu vas pouvoir faire plein de choses, mettre en place plein de choses. » Et je me suis dit « Bah ouais, pourquoi pas aller chercher de l'inspiration. » Instagram, je ne connaissais pas. Mmh. Bah, d'ailleurs, je ne connaissais pas du tout les réseaux sociaux et je m'inscris sur Instagram sur les conseils de ma copine. Et là, je découvre en fait, ce qu'est un réseau social.
Aïe, aïe, aïe.
Et je découvre qu'il y a des personnes qui sont suivies avec qui ont des millions d'abonnés. Mmh. C'est quelque chose. Et encore aujourd'hui, ça me surprend énormément et je suis encore en observation de ça. Mmh. Parce que je ne sais pas. Ça, j'arrive pas à l'intégrer, en fait. J'arrive pas encore à intégrer ce truc-là.
Oui.
Mais bon, je présume qu'à un moment donné, ça va rentrer.
Un jour, peut-être.
Pour l'instant, c'est encore quelque chose qui est très surprenant pour moi.
Le fait que des gens en ligne soient suivis par des millions de personnes qui sont à l'affût de leur moindre photo, de leur moindre mouvement.
C'est ça. Oui. Ouais.
Ok.
C'est ça. Ben, je pense que je suis, enfin, j'ai 44 ans, donc 2019, j'avais quelques années de moins. Je suis née sans réseau.
Mmh.
Et donc, du coup, pour moi, la vie, elle est réelle.
Oui.
Elle n'est pas numérique.
Mmh.
Et que du coup, j'ai du mal à transposer tout ça dans le numérique. Et, mmh. et oui, effectivement, enfin, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va regarder chez mes voisins. J'aurai toujours un mot sympathique pour eux, etc. Ce n'est pas le souci, mais je ne vais pas forcément aller... C'est pas que ça m'intéresse pas, mais je me dis chacun son petit domaine, sa vie, ses trucs. Et donc, d'aller voir chez quelqu'un finalement avec le réseau social, ça
te parle pas.
Me quoi, voilà. Non, mais ce côté me perturbe un peu. Et puis du coup, je me suis quand même mis à les regarder.
Oui.
Parce que mon ami me dit si, il y a de l'inspiration pour les enfants. Et puis là, j'ai vu qu'il y avait des pubs dans les stories. Et à cliquer sur un lien et c'est vrai que dans le cadre de mes fonctions précédentes, je fais partie de ces gens qui lisent les contrats, donc, qui vont lire les petites lignes, qui vont prendre du temps sur un papier, voilà.
Ces choses qu'on ne fait
et
pas.
Du coup, j'ai pris du temps sur les petites lignes et puis à plus je lisais et à plus je me disais mais ça va pas, c'est pas logique, c'est pas comme ça que ça doit marcher normalement. Et puis, mais est-ce que ça marche vraiment comme ça, du coup, ou pas? Et je suis ouvert un code de la consommation et je crois que je suis tombée amoureuse du code de la consommation. Et puis voilà, et puis au fur et à mesure, et quand j'avais des questions où je ne trouvais pas les réponses, et ben, j'appelais la DGCCRF directement.
Ok, waouh.
Donc voilà, ça a commencé comme ça. Puis après, je me suis intéressée aux publicités. La publicité, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est réglementé? Est-ce que ce n'est pas réglementé? Comment ça doit être fait? Et puis, je crois que je me suis aussi passionnée pour la publicité. Puis après, je me suis dit, mais en fait, le marketing digital, c'est intéressant. Donc, ben, je vais faire une formation, en fait, de marketing digital, vu que de toute manière, je n'avais pas repris d'activité. Pourquoi pas faire une formation en marketing digital? J'ai suivi un cursus de 4 mois qui m'a donné des réponses que je n'avais pas, évidemment. Et puis, je crois que je me suis finalement passionnée pour l'influence. Et donc, pour la psychologie sociale. Et puis là, je suis dans une phase où je suis très tournée psychologie sociale. Donc, je suis en train de regarder qu'est-ce que je pourrais faire au cours du soir.
D'accord.
Voilà.
Je continue à te former. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est marrant, tu es arrivée à un peu à reculons sur les réseaux sociaux. Et au début, tu t'es dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe sur Instagram? C'est le bazar. Mais finalement, ça t'a quand même poussé à créer ton compte Vostar en réalité, parce que au-delà de te former à tous ces sujets, tu as aussi commencé à vulgariser toutes ces notions et notamment les débordements et les manquements à la loi de certains, et on en parlera plus en détail après, hein, mais du coup, à travers ce compte Instagram qui aujourd'hui est assez suivi et qui lui-même a sa propre influence. Donc finalement, la boucle est bouclée.
C'est ça. Oui, c'est vrai. Ben, en fait, je me suis dit, moi, je suis en train de voir qu'on n'est pas conforme, que le site est à risque, en tout cas, pour le consommateur.
De certains influenceurs que tu suivais, par exemple.
De certains influenceurs, mais ça peut du coup être sur tout type de site. Ben, il faut que j'explique aux gens qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que moi, je vois qui doit les alerter aussi. Mmh. Et que, ben, aujourd'hui, on le voit chez une personnalité qui est connue, pour le coup. Mais attention, parce que vous pouvez le voir ailleurs aussi. Oui. Et apprenez à détecter qu'est-ce qui doit vous mettre en alerte. Parce que finalement, le vecteur, on s'en fout un peu, quoi.
Mmh. Ouais, c'est la démarche. Et est-ce que tu peux nous préciser un petit peu les différents types d'arnaques, entre guillemets, et de pratiques déviantes dont tu parlais sur ton compte, notamment au début? Est-ce qu'il y a différentes approches? Moi, je pense typiquement, enfin, j'ai plutôt été la cible, je suis moins sur Instagram, donc j'ai plutôt été la cible des arnaques au CPF. Je ne suis pas tombée dedans, hein, mais j'ai reçu beaucoup de textos CPF. Mais j'ai l'impression que sur Instagram, il y a quand même des grandes catégories, entre guillemets, de playbook que les influenceurs utilisent.
Ouais. Alors Instagram, c'est la plateforme où il y aura le moins, chez les influenceurs, d'arnaques visibles, parce qu'en fait, ils les diffusent sur Snap. Et moi, je vais chercher les vidéos sur Snap.
D'accord.
Aujourd'hui, c'est plus trop sur Snap, c'est sur Telegram.
Ah oui, encore moins accessible.
Donc en fait, ils renvoient toujours sur des canaux, ben, un réseau. Donc on peut maquiller finalement, on peut aller partout avec un réseau et ils savent maîtriser tout ça. Mmh. Et TikTok n'est pas sans arnaque, donc c'est vraiment sur tous les réseaux sociaux. D'accord. Dans les catégories, la première que j'ai vue, c'était le dropshipping. Mmh. Alors le dropshipping, c'est une pratique qui est légale. C'est une pratique, donc c'est sur des sites marchands en ligne où la personne qui a le site marchand n'a pas de stock. C'est le stock est en Chine bien souvent. Et du coup, quand on passe la commande sur le site est un intermédiaire. La commande va directement arriver chez le fournisseur qui va nous livrer si bien sûr le site a payé le fournisseur. Voilà. Alors là, il y a différents types de problèmes et ces sites, c'est important de les repérer. Parce que déjà, il peut y avoir un problème au niveau de la conformité des produits par rapport à nos normes européennes. Mmh. On n'a absolument aucune certitude aujourd'hui que sur ces sites-là, les produits soient conformes à nos normes. Dans les problèmes que j'ai eus d'acheteurs de sites de dropshipping, il y avait eu une période, ils vendaient des ceintures d'électrostimulation.
Ouh loulou.
Et en fait, sur ces ceintures-là, moi, j'ai eu des photos de personnes qui avaient le ventre brûlé.
Aïe, aïe, aïe. Ouais, ok.
Donc, l'appareil n'était pas conforme à nos normes, c'est évident.
Oui.
J'ai eu des personnes qui m'ont fait des témoignages de, par exemple, sèche-cheveux qui leur ont explosé dans les mains. Mmh. Donc, j'ai eu tout ça. Mmh. Et ça, donc, du coup, la mise en conformité des produits, en tout cas, le fait qu'ils soient conformes, c'est un risque quand on achète sur ce type de site. Mmh. Quand ils vendent des cosmétiques, parce que ce type de site peut vendre des cosmétiques ou des compléments alimentaires, ben en fait, finalement, est-ce que ces compléments alimentaires ont le droit d'être vendus en France? Est-ce qu'ils ont été contrôlés? Est-ce que c'est conforme à nos normes? C'est les mêmes questions.
Bien sûr.
c'est pas forcément le cas. Bien souvent, parce que du coup, depuis, j'ai pu communiquer avec certains dropshippers et je leur ai posé des questions pour voir un petit peu quel niveau de connaissance ces gens avaient des avant produits, de monter des sites. Ouais. Et il se trouve que quand je parle de conformité aux normes européennes, j'ai souvent des blancs. Donc, ils n'avaient même pas conscience en fait, ouais. de ça pour certains. Et de la même manière pour les produits cosmétiques ou les compléments alimentaires, il y a des déclarations qui doivent être faites à la DGCCRF quand on va en Europe, c'est pas forcément fait, par D'accord. exemple. Donc, en Europe, je ne sais même pas si c'est quand on vend en Europe ou quand on vend en France, il y a une déclaration qui doit être faite à la DGCCRF. Il faudrait que je relise exactement le texte parce que du coup, je m'y suis intéressée et je m'en réintéressée il n'y a pas très longtemps. Et voilà, mais ça, c'est un premier risque. Et puis après, ce qu'on a, c'est qu'on n'a pas la certitude de recevoir le produit. On ne peut pas être certain. Donc, on peut dépenser 50 euros sur un site en se disant, on a reçu un mail de confirmation, vous recevrez autour de telle date, et puis ben, le produit n'arrive pas, et il n'arrive pas, et qu'est-ce qu'on fait après ? Parce qu'il n'y a pas de service après-vente en général sur ce type de site.
Donc, c'est purement des arnaques, où on va récupérer les infos de carte bleue, et il n'y a rien derrière. Ok.
Bah ça peut être aussi un risque, la conservation des données de la carte bleue. Oui.
J'imagine. D'accord. Donc, et d'ailleurs, pour reprendre le dropshipping, je me permets de rebondir sur cette catégorie d'arnaque. Je la trouve assez dingue et j'en ai vu pas mal passer aussi. Et puis, c'est surtout que souvent, les influenceurs utilisent leur image de marque pour en fait apposer un premium de prix sur des produits et donc ils vont te revendre, j'en sais pas, des doudounes soi-disant incroyables à 100 balles alors que tu les trouves sur AliExpress à 5 euros quoi. Et c'est ça qui est assez incroyable aussi et assez malveillant je trouve en termes de pratiques marketing liées à l'influence.
Alors, sur le prix, c'est souvent sur le prix, ce qu'on peut constater c'est des prix barrés. Donc, avec un prix démentiel au démarrage. Et puis, alors, par exemple, on est à 150 euros. Et puis, quand on arrive, il est barré, c'est 75. Et puis, comme on a le code promo, ça va tomber à 30. Ça peut être, avec des timers qui vont nous dire, bah, l'offre est valable uniquement 12 heures, par exemple. Et puis, en fait, on revient sur le site à la 15e heure. Mais l'offre, elle est toujours là. C'est bon, ça marche. On a vu aussi des choses. Donc, c'est des roues. Et donc, sur ces roues, on a, c'est des roues, ils appellent ça la roue de la chance. On a différents types de gains possibles. Alors, ça peut être un montant à dépenser sur le site. Ça peut être un produit du site qu'on peut gagner. Ça peut être, il y a plein de choses. Mm-hmm. Et puis donc, on gagne tout le temps. Ça, c'est extraordinaire. On a une chance énorme. On gagne à chaque fois. Et donc, on se dit, je peux dépenser 500 euros sur un site qui vend, par exemple, des montres. Les montres sont en moyenne à 100 euros, je vais en acheter 5. J'ai 500 euros à dépenser. Donc, je vais faire plaisir à mes amis, ma famille, mes enfants. Enfin bon, bref, peu importe. Donc, on dépense, on sélectionne ces 5 montres. On arrive sur la page de vente. Et puis, alors là, du coup, effectivement, j'ai bien gagné mes 5 montres. J'ai bien 500 euros de déduit. Mais je dois payer des frais de livraison. Oui. Et en règle générale, les frais de livraison sont à peu près de 10 euros par produit. Donc, pour 5 montres, on va arriver à payer 50 euros de produit. Très probablement que pour l'envoi de 5 montres, ça ne doit pas coûter 50 euros.
Oui, j'imagine.
Okay. Et on a des montres de faible qualité, bien évidemment, puisqu'un site ne va pas vendre à perte et ne va pas donner des montres de luxe ou même des montres d'horloger. Il n'y a jamais un horloger qui a fait ça de sa vie. Donc, on a des montres en règle générale qui valent 2 euros, allez, grand maxi 3. Et on a dépensé, pour 5 montres, au lieu de 15 euros, on en a dépensé 50. Et
on s'est
voilà.
bien fait arnaquer. C'est intéressant ce que tu mentionnes parce que ça, il me semble qu'on appelle ça les dark patterns. Et donc, du coup, c'est ces schémas qui influencent le consommateur. Et c'est vraiment de la manipulation, entre guillemets. On est en plein dans la psychologie comportementale que tu es en train d'étudier. Finalement, ça consiste à jouer sur les faiblesses et les biais de la personne pour l'inciter à acheter, notamment les timers, le côté c'est une opportunité exclusive, limitée dans le temps. Attention, ça part avec la preuve sociale qui est elle aussi... constitué de toutes pièces, c'est vraiment assez dingue parce que finalement c'est des choses qui à la base n'étaient pas forcément trop dans l'influence, mais je sais que l'industrie aéronautique a été pas mal accusée de mettre ça en place, tu vois, sur les sites d'achat de billets d'avion par exemple, attention il n'en reste plus que 5, les choses comme ça, ou enfin sur les sites de e-commerce de manière plus globale, mais c'est intéressant
on le retrouve partout, c'est franchement, si on devient observateur de ça, on peut le retrouver dans tout domaine. Mmh. Ouais.
Intéressant. Et du coup, c'est quoi les autres grandes catégories outre le dropshipping que tu identifies ?
En fait, moi, ce que j'ai pu remarquer depuis 2019, c'est qu'il y a eu une chronologie.
Ouais. Intéressant ça. Alors, quelle est-elle ?
Une chronologie. Donc, on a commencé par une grosse période de dropshipping et notamment, ça a vraiment explosé pendant la période de confinement. Mmh. Donc là, vraiment, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de sites de e-commerce. Ensuite, on est passé à... ça a été le début 2020. Début 2020, on a commencé à avoir les premiers sites de CPF. Ça a commencé à ce moment-là.
Oui.
La première pub que moi, je détecte avec des influenceurs, c'est en mars 2020.
OK.
Voilà. Et j'ai les premières victimes dans la foulée. Donc, des premières victimes qui se font vider des comptes de 4 000, 4 500 euros. Donc là, bon, y avait des démarches, hein, c'était sur le site de la Caisse des dépôts, il y avait déjà les démarches, on savait déjà comment faire des réclamations, etc. Mmh. Les victimes recevaient des mails automatiques leur disant qu'ils étaient complètement dépassés par le nombre de personnes qui se faisaient avoir et que du coup, les délais de traitement de dossier étaient extrêmement longs et ça a vraiment été le cas. J'ai eu beaucoup de victimes qui sont passées par des médiateurs, moi,
okay.
pour pouvoir obtenir des réponses et puis des solutions, surtout Bien récupérer sûr. Leur argent. Donc, le CPF a commencé à partir de ce moment-là. Ensuite, on a eu beaucoup de contrefaçons. Donc, des contrefaçons de marques très connues. Et là, c'est les marques carrément qui me contactaient en me disant « Alors, ça, ce n'est pas notre produit. » Donc, j'avais des messages et j'affichais les messages des marques qui me disaient « Non, non, parce que j'ai toujours identifié les marques. Quand c'est comme ça, je les identifie. » Donc, c'était plutôt, entre guillemets, rassurant que les marques réagissent et s'expriment en tout cas. La pratique illégale de la médecine. Alors ça a été un truc exceptionnel. C'est vrai qu'il y a eu cette mode, j'ai des grosses lèvres, j'ai des grosses fesses, j'ai des gros seins. Et donc, pour tout ce qui était injection d'acide hyaluronique, on avait ces injectrices russes qui ne parlaient pas français, bien souvent russes. Hein. Elles pouvaient être ukrainiennes aussi, mais c'était quand même bien souvent russe. Puisque le Russian Lips est une mode. Okay. Et donc, c'est mieux quand on est russe et qu'on le pratique parce qu'elles savent mieux faire qu'un médecin français. Donc, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'influenceuses qui nous ont donné leur bon plan sur ces injectrices illégales. Et là, pour le coup, ben, j'ai eu des victimes aussi, des gens qui ont eu des paralysies, puisque forcément, quand on fait 8 ans, je crois, de médecine pour être médecin esthétique, ce n'est pas des personnes qui sont en Russie et qui ont un équivalent d'un CAP cosmétique ou, je sais pas, esthéticienne en France, c'est l'équivalent. Qui font les injections là-bas parce que ça ne pose pas de problème, qui sont mieux formés qu'un médecin, notamment sur tout ce qui est vascularisation de la face. Enfin bon, la face, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose, mais en fait, c'est quelque chose de très, très complexe. Et donc, du coup, voilà, j'ai eu des personnes vraiment qui avaient vraiment des conséquences. Et on en parle, je trouve, plus depuis un an à peu près. Et ça, c'est très, très bien. Et puis, pour avoir infiltré, j'ai fait un grand reportage sur TF1 sur la médecine esthétique et justement ces fausses injectrices. Mmh. Et donc, je suis partie en caméra cachée, micro cachée chez 3 injectrices illégales à Paris.
Ok.
Où j'avais fait les rendez-vous et dont une qui était déjà, qui avait déjà des plaintes contre elle.
Ok.
Donc, c'était vraiment très, très intéressant parce que du coup, ben, effectivement, on n'a pas le recueil de consentement. On ne nous expose pas les risques. Mmh. On est injecté dans des endroits parfois très surprenants. Enfin, moi, il y en a surtout un qui m'a marqué. Je me suis retrouvée au -3 ou -4, je ne me rappelle plus, d'un immeuble parisien avec des lumières qui ne fonctionnaient pas totalement. C'était pas hyper propre. Enfin voilà, j'en ai eu une, j'étais carrément dans son domicile, donc j'ai trouvé ça un peu atypique qu'elle me propose de regarder la télé en attendant mon tour. Enfin voilà, j'ai vécu des trucs un peu sympas, mais du coup ça m'a fait voir un peu aussi tout ce côté après, parce que c'est vrai que je n'ai jamais fait d'injection moi et c'est pas quelque chose que je ferais, et si tant est que je me décide à le faire, j'irai chez un vrai médecin formé. Donc voilà, et je n'avais jamais été vraiment dans ces endroits. Donc ça a été très, très riche et vraiment instructif pour le coup. Après, qu'est-ce qu'on a vu encore? Après, on a vu toutes les arnaques crypto, trading,
ah oui.
le NFT. Ah. où là, on nous promet des gains d'argent très rapides, avec 500 euros d'investissement, on peut gagner 5000 euros par mois, enfin, voilà, et présenté par des gens qui nous montrent un rythme de vie exceptionnel, quoi, avec des voitures exceptionnelles, des maisons exceptionnelles, tout est exceptionnel. Mm-hmm. Et si on écoute ces personnes-là, ils le gagnent grâce au trading ou à la crypto ou au NFT, ce qui n'est pas du tout le cas, puisqu'ils gagnent l'argent avec la publicité, l'affiliation, donc le nombre de personnes qu'ils vont ramener sur les canaux de trading ou autres. Mmh. Donc ça c'est le NFT c'est un autre problème. Le NFT c'est de l'investissement, c'est de la crypto-monnaie, c'est de l'investissement sur des projets qui potentiellement voient le jour pour la vente et puis d'un beau coup disparaissent et l'argent aussi disparaît. Donc là on a aussi des gens qui ont perdu beaucoup d'argent.
Oui.
Et effectivement on n'est pas sur des achats à 15 ou 20 euros, hein. On est plutôt sur des achats à 800, 900, 1000, 1500, enfin voilà, on commence à atteindre des sommes quand même qui sont importantes. Je dirais que voilà, en gros, tout ce que j'ai pu voir là sur 3-4 ans, quoi.
C'est déjà pas mal. Et c'est vrai que les NFT, même Kim Kardashian, il me semble, a été condamnée l'an dernier pour justement avoir participé à une escroquerie. Et du coup, ça m'amène à... Enfin, j'ai plein de questions à te poser, mais ça m'amène peut-être à la transition qui est tous ces influenceurs. Est-ce qu'ils sont... Enfin, j'imagine qu'il y a des cas différents, mais est-ce qu'ils sont conscients de l'impact qu'ils ont sur leur audience, sur leur communauté, de ces arnaques? Est-ce qu'ils le font de manière vraiment mal intentionnée? Est-ce qu'ils sont un peu naïfs et ils se font manipuler parce qu'on leur vend ces solutions comme de l'argent facile et ils questionnent pas trop les problèmes derrière? C'est quoi ta conviction sur l'influence aujourd'hui en 2023 et les influenceurs?
Alors, il y a différents types d'influenceurs. Mm-hmm. Il y a les influenceurs qui sont autonomes, je vais dire autonomes, et ceux qui sont sous agence.
Okay.
Pour les influenceurs qui sont autonomes, je pense qu'il y a beaucoup de méconnaissance, vraiment. Mmh. Et qui du coup, quand on propose 500 euros pour faire un placement d'un Snap qui va vendre des bons plans auto ou des bons plans permis ou des bons plans... Il y a tout type de bons plans. Bah, la personne, elle ne va pas forcément se dire, tiens... C'est une arnaque. Alors, moi, j'ai besoin de 500 euros. Je prends mes 500 euros et puis c'est 24 heures. Donc, voilà, se pose pas trop la question, je pense. En tout cas, il y en a une partie qui ne se pose pas trop la question.
Ouais.
Pour ceux qui sont sous agence, on a un autre problème, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas nécessairement en exclusivité avec l'agence. Donc, ils peuvent faire des publicités avec une agence, mais aussi sans agence. Et du coup, le sans agence devient problématique parce que... ils ont tout type de demandes en direct. Et puis celui qui va vouloir gagner de l'argent très vite, il peut accepter tout et n'importe quoi.
J'imagine.
S'il n'est pas informé ou s'il a la volonté, sa volonté de gagner de l'argent est supérieure à sa volonté de préserver sa communauté. Mmh. Donc, c'est très personnel et c'est très individuel. Mmh. Et puis, on a tous ces placements qui passent par l'agence, qui sont comme par exemple pour le dropshipping, et que l'agence ne va pas forcément détecter. Alors, soit elle va le détecter comme étant une arnaque, et quand l'agence va détecter l'arnaque, ne le placera pas. Soit la recherche n'est pas suffisamment poussée, et du coup, on prend, parce que finalement, la société, elle est bien réglementée, elle est bien enregistrée, elle est bien existante, et on n'a pas trop de points de contrôle, ou volontairement, involontairement, on n'ira pas trop chercher non plus à s'assurer de la fiabilité, voilà, parce qu'il y a aussi cette histoire financière. Donc,
bien sûr.
Voilà, et ensuite, on a tout ce qui peut être, allez, on ne regarde pas et on y va, on fait, quoi.
Oui.
Il y a vraiment tout type de profil.
Oui.
Tout type de profil.
D'accord. Donc, c'est pas... Oui, c'est finalement, en fait, le marché est à l'image de tout le reste, complètement chaotique, avec des cas divers et variés, et rien ne se ressemble. Et pourtant,
c'est très personne dépendant,
ouais,
finalement. Parce que évidemment qu'on se met à la tête d'une grosse agence, là, il y en a deux grosses pour les candidats issus de télé-réalité, par exemple, puisque moi, ça a été mon axe de communication.
Mm-hmm.
Ces gens ont énormément de propositions qui viennent de toutes parts.
Oui.
Doivent rémunérer certains influenceurs qui sont en forfait et pas à la prestation. Donc, ce sont des gros montants. Et du coup, l'argent doit rentrer. Ça, il n'y a pas le choix. Donc, ces agences peuvent potentiellement ne pas être trop regardants en se disant, mais il faut quand même que l'argent rentre, il faut que l'argent rentre. Et puis, sous ces influenceurs en exclusivité, dès lors où ils partent à faire du placement de produits eux-mêmes, c'est pas forcément du placement de produits choisi et contrôlé et voilà.
Ouais, c'est pas le plus quali quoi.
Okay. Non.
Très intéressant. Et pourtant, et on va passer bientôt à ta stratégie de communication, parce que j'ai envie de savoir comment tu as lancé le média et comment tu as conquis tes followers. Mais juste avant ça, est-ce qu'il y a des lois qui régulent ce marché de l'influence aujourd'hui ?
Ah ben, il y a déjà tout le droit de la consommation. Mm-hmm. Et il existe, le droit de la publicité existe.
Ouais.
Donc ça, c'est des règles qui sont applicables dans la vie et qui sont applicables sur les réseaux sociaux. La DGCCRF se base de toute façon sur le droit de la consommation.
Mmh, bien sûr.
Donc, il n'y a pas de sujet pour moi là-dessus.
Oui.
Aujourd'hui, il y a des lois qui sont qui ont été travaillées. En tout cas, il y a des propositions de loi qui ont été travaillées. Moi, j'ai participé à plusieurs.
Mmh.
Et notamment sur la définition de l'influenceur, parce que moi, pour moi, c'était vraiment le problème fondamental. Okay. En fait, avant de mettre des lois dans tous les sens, il faut définir ce qu'est le métier et puis définir l'agence aussi, parce que l'agence non plus n'est pas définie. Et puis définir les relations contractuelles entre un influenceur et une agence, et puis entre l'agence et la marque. Et puis ce qu'on a mis dans le détail de ces lois et qui n'a pas forcément été communiqué publiquement, c'est qu'en fait, on a souhaité protéger le consommateur un maximum et donc obliger les marques à avoir par exemple, un service après-vente actif. Mmh. Et donc, ça doit être contrôlé par l'agence ou l'influenceuse, si c'est un partenariat direct. Et plein de petites choses comme ça. Et par exemple, les influenceurs qui sont à Dubaï ou dans un autre pays, qu'on leur donne l'obligation d'avoir un représentant légal en France, pour pouvoir aussi avoir un interlocuteur en France. Et de la même manière, pour les sociétés étrangères, avoir un interlocuteur en France dédié. Et du coup, pour faciliter aussi tout le après, si jamais ça se passe mal, en fait.
Oui. Oui.
Donc là, il y a ça qui est en cours. Il y a tout un projet de loi sur la partie éducative, notamment dans les écoles, parce que ça, c'est, je pense, pas forcément optimal.
Non.
Et puis, il y a toute une partie sur les différentes thématiques, donc la pratique illégale de la médecine, les jeux en ligne, paris sportifs, tous les jeux en ligne, les placements d'argent. Je crois que tout a été balayé, les compléments alimentaires, la chirurgie esthétique,
oui,
je crois, tout balayé, le dropshipping. Je pense vraiment que tout a été balayé dans ce projet de loi. Et donc, du coup, ça va être présenté en mars,
d'accord,
puisque les différents partis politiques se sont rassemblés. Et donc, c'est un projet de loi commun. Mmh. Donc, c'est transpartisan et c'est très bien.
Mmh.
Qui sera présenté donc en mars. Et après, bon, ça va suivre un chemin. Qui, pour une mise en application, potentiellement, si tout est validé, ce serait en septembre, je crois, en septembre ou en octobre.
Ok, mais sacré projet, en tout cas, félicitations d'avoir pris part à tout ça.
C'est cool qu'on m'ait contacté, ouais. Franchement, je suis ravie vraiment, parce que, et encore qu'à plus j'y réfléchis, à plus je me dis, ah ça, on l'a peut-être oublié, et puis j'en vois en permanence, en permanent. Puis bon, après, ben forcément, quand on commence à réfléchir à tout ça, on voit plus large. Et puis, j'ai commencé à penser dépendance au réseau. Et puis, j'ai commencé à penser à beaucoup, beaucoup de choses en lien avec les réseaux, mais pas forcément en lien avec les influenceurs.
Mmh.
Et je me dis, mais demain, comment le gouvernement compte gérer tout ça ? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas géré, on le voit. Et j'ai pas l'impression que des choses soient prévues pour demain et pour gérer tout ça. Donc, moi, je suis assez inquiète quand même.
C'est un sacré bordel, je te l'accorde. Mais ce que je trouve assez réjouissant, c'est de se dire que des gens comme toi peuvent lancer des initiatives citoyennes. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, lancer des initiatives d'éducation et de vulgarisation de ces thématiques. Et justement, on peut revenir au compte Vostar en réalité. Finalement, tu l'as lancé il y a à peine quelques années, si je ne dis pas de bêtises. Et aujourd'hui, on te demande de prendre partie à la réflexion autour d'une nouvelle législation, autour de la création de nouvelles lois. C'est quand même assez dingue de se dire que ce compte a contribué à te donner une posture d'experte sur le sujet et que grâce à toi, en fait, le sujet justement avance. Alors, comment est-ce que tu as lancé ce compte Instagram, toi qui n'étais jamais allée sur les réseaux sociaux avant ? Comment ça s'est passé, les débuts de Vostar ?
Ah ça s'est très bien passé. Hein. J'ai fait des publications qui n'étaient absolument pas belles.
Très bien.
Sans montage particulier, parce que je ne savais même pas qu'on pouvait prendre une vidéo depuis le téléphone.
Ah, il y a classique.
C'est-à-dire que quand je voulais faire une vidéo, c'était toujours un truc, voilà. Puis, donc, petit à petit, au fur et à mesure des semaines et des mois, je me suis dit, bon, quand même, avoir un peu de technique, parce que parce que c'est pas le tout de donner de l'information. Si c'est pas joli, bah, c'est pas regardé, parce que Instagram, ben, c'est le réseau de l'esthétisme. Donc, voilà, on sait qu'il y a des couleurs qui passent pas super bien. On sait que, voilà, on n'a pas forcément envie de trucs vifs, et donc voilà, au fur et à mesure, en fait, j'ai amélioré un peu les montages, j'ai été chercher, j'ai regardé des tutos, ouais, voilà. Et puis, ben, je me suis dit, en fait, pour moi, c'était, voilà, je vais donner les trucs que je vois, ce que je sais, dans une manière de communiquer qui va pouvoir parler à tout le monde. Je m'offusque de ce que je m'offusque, et puis de toute façon, je demande à personne d'être d'accord avec moi, parce que j'ai le droit de m'offusquer sur ce que j'ai envie. Parce que on me disait ça au départ, oui, mais bon, tes opinions, non, c'est pas mes opinions, en fait. La loi, c'est la loi, donc c'est comme ça, en fait. C'est pas, moi, je suis pas ni d'accord, ni pas d'accord. C'est que la chose, elle doit être faite comme ça. Donc voilà, j'évite de donner mes opinions personnelles.
Oui.
Mais ça, c'est très important pour moi, parce que déjà que les gens mélangent opinion et fait.
Oui, c'est vrai compliqué. Que ça, c'est difficile, en effet.
Donc, j'évite de donner mes opinions, et quand on me parle d'opinion, quand ce sont des faits, je reprends la personne et je lui explique la différence, parce que pour moi, c'est très important de faire la différence. Et c'est pas parce qu'il y a des faits, quels qu'ils soient, que je suis d'accord ou que je suis pas d'accord, ou tant que j'ai rien dit, quoi. Voilà. Oui.
Mais en tout cas, c'est vrai que moi, je t'ai connue à travers à la fois les stories que tu fais qui, justement, reprennent des vidéos de promotion d'influenceurs et tout, et qui pointent, justement, les manquements, ou même des carousels. J'aime beaucoup ce format que tu utilises beaucoup. J'ai l'impression, le format des carousels où tu vas, en fait, parler d'une arnaque en particulier et dire, voilà, machin a proposé tel truc pour tel prix sur Bidule Site. Mais attention, le site a été créé il y a seulement 3 jours. Il n'est pas domicilié en France, enfin non, c'est pas domicilié en France, ça n'a pas de sens, mais bon, bref, tu donnes tous les éléments de vigilance qui laissent à penser que c'est une arnaque, en effet, sans prendre position, mais en tout cas, des carousels qui à chaque fois expliquent les faits et du coup, ta réflexion autour du sujet et de la potentielle manipulation.
Oui.
Et aujourd'hui, il y a des centaines.
J'ai vu un truc il n'y a pas très longtemps et qui m'a amené à m'intéresser, parce qu'en fait, c'est en fonction de ce que je vois. Je vais m'intéresser à une thématique, et là, la dernière fois, j'ai vu, et je pense que beaucoup de personnes connaissent ça, moi je ne connaissais pas, c'était un prestataire pour du changement de pare-brise, et donc c'est comme un Carglass, mais ça ne s'appelle pas Carglass, et donc dans la publicité, la personne offrait 125 € à celui qui venait changer son pare-brise. Et je me dis, mais quand même, c'est un peu bizarre d'offrir de l'argent pour un changement de pare-brise. Dans ma tête, ça ne rentre pas. Et donc, d'accord, j'ai commencé à m'intéresser un peu à tout ça. Et il s'avère qu'effectivement, ça, ce sont des arnaques à l'assurance. Mmh. Et c'est par exemple typiquement ce genre de choses où je vais communiquer dessus, parce que ce n'est pas anodin. C'est pas anodin. Pourquoi ? Parce que celui qui va contribuer à ça en se disant je vais prendre mon chèque de 125 €, il devient complice de celui qui crée l'arnaque.
Oui.
Et donc, il peut avoir des ennuis au même titre que celui qui est derrière l'arnaque. Donc, j'aime bien aussi amener ce côté où vous pensez gagner quelque chose, mais attention, il y a le risque. Et c'est interdit parce que voilà, il y a telle et telle loi, quoi. Mais je ne connaissais pas avant, il y a 10 jours. Et j'avais même jamais vu qu'il y avait ce type de proposition sur les réseaux. Et en fait, là, depuis que je l'ai vu une fois, je le vois tout le temps.
Évidemment.
Normal, quoi. Ouais, ouais. Et donc, voilà. Et en fait, je découvre de plus en plus d'arnaques de ce type-là. Et en ce moment, vraiment beaucoup, beaucoup en lien avec la pratique illégale de la médecine.
Ouais,
et là, je me dis qu'on a un autre problème et qui n'est plus sur les réseaux. Enfin, au-delà de la publicité qui est faite sur les réseaux, elle est réelle. Puisqu'on a des instituts esthétiques qui ont des pratiques médicales et ce ne sont pas des médecins. Donc là, du coup, c'est un autre sujet. Et franchement, je pense quand même que l'État devrait un peu se pencher sur la question parce que c'est pas normal.
Bah, c'est vrai que je me souviens que l'an dernier, il y avait quand même eu un scandale autour d'une influenceuse, je ne sais plus comment elle s'appelait, qui avait fait des stories sur Insta pour faire la promo de son gynéco, il me semble, et du coup qui avait justement qui s'était targué de se faire des injections et d'avoir le vagin d'une enfant de 12 ans, quoi. Enfin, c'était vraiment très problématique. Je sais pas si tu avais vu ça passer. Je sais plus comment elle s'appelait, mais en tout cas, c'est vrai que les sujets liés à la santé, on en parlait toutes les deux en off avant d'enregistrer ce podcast, notamment et aussi à la beauté, finalement, sont assez problématiques et ciblent principalement les femmes qui sont une cible assez assez facile entre guillemets pour ce type d'offre. Donc carrément des choses à faire. mais en attendant de faire changer les choses. Oui. Toi, tu as quand même pris le sujet à bras-le-corps. Et comment est-ce que ta communauté s'est constituée? Comment finalement est-ce que tu t'es constituée ta base de followers? Il y en a combien aujourd'hui d'ailleurs, au bout de 3 ans d'existence?
150 et quelques mille.
Oui, j'allais dire, non.
Je sais exactement, parce qu'en fait, quand j'ai ouvert le compte, je ne me suis jamais posé de questions sur le nombre d'abonnés. Mm-hmm. C'est-à-dire que ce n'était pas une finalité.
Ouais.
Et en fait, moi, je me suis dit, tu vas publier et ce qui est sur Internet reste sur Internet. Mm-hmm. Donc, si ça ne sert pas aujourd'hui, si ça ne sert pas demain, ça servira le jour d'après. Mm-hmm. Donc, je ne fais pas ni attention au nombre d'abonnés, ni attention aux likes. Et c'est aussi ce qui me permet d'avoir une liberté de parole quand je prends position pour quelque chose, parce que finalement, le fait qu'il y ait 10, 100, 2000, 10 000 et on ne sait pas combien parce que c'est infini de personnes qui lisent, ne me perturbe absolument pas, ça ne change absolument rien.
Oui.
Voilà, ce n'est pas le sujet, et pour moi, ce n'est pas le sujet.
Mmh, t'es droit dans tes bottes, t'as ton objectif.
Oui. Oui, puis je ne monétise pas les réseaux, donc déjà, je ne fais pas de vente dans mes stories. J'ai développé mes newsletters parce que j'aime écrire et que je suis sur l'écriture d'un livre avec un journaliste et une autre personne.
Félicitations.
Donc, j'aime écrire. C'est vrai que j'aime écrire. Il y en a un des trois qui a vraiment un don exceptionnel pour l'écriture. Je n'ai pas son don. Mais j'aime écrire et j'aime partager des trucs par l'écriture. Donc, j'ai développé mes newsletters avec donc une grosse formule gratuite pour 75% des newsletters. Et puis, il y a 25% où il y a une formule payante et les gens font ce qu'ils veulent. S'ils veulent, ils ont envie de payer la formule. Franchement, ça n'amortit pas le temps que je passe dessus. Ça n'amortit pas les frais qu'il y a en lien avec cette page parce qu'il y a des frais. Et crois-moi, il y en a eu beaucoup. Mais c'est juste histoire de dire, ok, mais c'est pas tout n'est pas gratuit et je vous fournis un travail supplémentaire, mais voilà, vous avez la possibilité de participer. Et si vous le faites, c'est cool, et si vous le faites pas, ben en fait, je m'en fous, quoi. Mais okay. C'était pour le principe et un petit retour à l'équilibre, tu vois, parce que tout ne peut pas être que don. Ça n'existe pas.
C'est sûr, parce que tu donnes énormément, parce que tu crées tout ce contenu, que ce soit sur Instagram ou dans ta newsletter, tu fais du lobbying, tu contribues à faire évoluer la loi, et tu m'en parlais un petit peu avant qu'on enregistre, tu es finalement également en contact avec des membres de ta communauté qui sont des victimes, et du coup tu les accompagnes dans leur démarche.
Oui, bon, ça, tout dépend après quel type de victime il y a, mais en tout cas, oui, j'ai aidé beaucoup, beaucoup de personnes. Je ne l'ai pas forcément mis en avant parce que c'est du temps.
Bien sûr.
Et que ce n'est pas une volonté de ma part que d'afficher en story des victimes qui, bien souvent, ont honte, même avec 15 euros de perte. Donc, c'est pour moi pas forcément c'était pas une volonté. Puis, je n'avais pas forcément envie qu'on vienne à moi pour ça non plus. Mais oui, bien sûr que si quelqu'un me contacte et me dit il m'est arrivé ça, etc. Est-ce que tu as une idée comment je peux faire? Ben bien évidemment que j'ai toujours des idées et qu'on peut toujours trouver des solutions, ou en tout cas souvent, peut-être pas toujours, mais souvent, on en trouver des solutions. Donc, et puis après, si moi, je ne peux pas les aider, je vais les diriger ailleurs. Enfin, il y a toujours des dons. On peut trouver des solutions. Enfin, si on peut, en tout cas, si moi, j'ai la solution, je vais le faire et avec plaisir. Voilà, mais ça prend du temps aussi.
C'est clair. Et surtout, je ne sais plus si tu l'avais précisé, mais surtout que tu fais ça à côté d'un emploi à temps plein, ce qui est assez impressionnant. Je ne sais pas si tu dors la nuit, d'ailleurs. Je ne sais pas si
en ce moment, j'avoue que j'ai des nuits de 3-4 heures.
Aïe, aïe, aïe.
Alors là où ça m'a particulièrement... je donne une petite anecdote personnelle. Dimanche, je me dis, il faut que tu te couches de bonne heure. Le lendemain, j'animais un workshop pour une association avec laquelle je collabore. Et on accompagne des jeunes créateurs, des créateurs d'entreprises, de vraies entreprises qui existent dans la vraie vie. Et donc, on est tout un groupe, il y a des avocats, il y a des comptables, bref. Et donc, j'animais un workshop de 2 heures lundi matin et le dimanche soir, je me dis vraiment, faut que tu te couches de bonne heure. Et puis, j'ai reçu un appel le dimanche soir et puis qui s'en est suivi d'un autre appel. Puis, je regarde l'heure et je vois 4 heures du matin.
Oh mon Dieu.
Et là, je me dis, mon Dieu, le workshop, il démarre à 10 heures, mais je vais être dans quel état? Donc, j'ai dormi très peu, finalement, de dimanche à lundi. Et c'est comme ça depuis dimanche soir. Hein, donc,
je suis fatiguée.
Du coup, je me dis, j'ai fait le meilleur workshop de ma vie. Je me suis dit, alors, on ne va pas prendre cette habitude. Mais quand même, ça va, j'ai bien géré le truc. Quoi.
Finalement, rester debout jusqu'à 4 heures du mat pourrait avoir des avantages. Très bien. Bon, on ne va pas t'inciter à le faire. Mais en tout cas, bah, peut-être une question qui me taraude un petit peu, c'est de me dire, toi qui as pris le parti, enfin, qui as pris le parti finalement de t'en foutre, de tes métriques, de tes vues, de ton engagement sur tes postes.
Ah oui, les statistiques, je ne regarde jamais. Tu ne regardes pas.
Alors, quelles sont les causes du succès du compte Vostar en réalité ?
Alors, j'ai rapidement été repérée par l'équipe de Julien Pain. Mmh. Donc, j'avais fait une première apparition, je crois que c'était Facebook à l'époque.
D'accord.
Pour eux.
Ouais.
Et puis après, j'ai fait quelques articles comme ça, notamment en Belgique. J'avais fait la une du métro belge.
Oh !
C'était chouette.
Très cool.
Mais vraiment, ouais, c'était super chouette ce truc. Puis je m'y attendais pas trop, donc c'était chouette. Mmh. Et puis un jour, j'ai reçu un appel d'un membre de l'équipe, d'un mec qui s'appelle Martin Veil,
oui.
Que je ne connaissais pas,
ouais.
Parce que je ne regarde pas la télé. Et donc, j'accepte de faire un truc avec lui. La veille, je manque d'annuler parce que j'avais la flemme, c'était prévu un dimanche, j'avais pas envie, faisait beau, bon, bref. Et donc, j'ai une copine, j'appelle une copine et je lui dis « Ouais, je sais pas trop qui c'est. » Mais j'avais pas regardé et elle me dit « Mais tu vas pas annuler en fait parce que
lui, Martin Veil,
super bien. »
Ouais, bah ouais.
Et donc, du coup, j'ai fait quelque chose avec Martin Veil, c'était génial. Mm-hmm. C'était génial. Vraiment, c'est... J'en ai fait des choses depuis, mais ça reste l'expérience, ouais, vraiment la mieux, en tout cas.
Tu vois, ton sourire touche à chacune de tes oreilles, là.
Non, c'était vraiment une journée... c'est celle que j'ai le mieux vécue, je crois, mm-hmm. de tout. Et pourtant, tout le monde a été très sympa tout le temps, c'est pas le problème. Mm-hmm. Mais c'était un petit peu particulier. Et après, ça s'est pas arrêté. Je suis allée dans Vrai ou Fake avec Julien Pain. Mm-hmm. Pour le coup, j'ai fait le complément d'enquête là, de cette année, puisque j'étais source,
oui.
de ce complément d'enquête. Ouais, j'ai fait plein de trucs. En fait, j'ai fait plein de trucs. Et puis...
Beaucoup de médiatisation au final. C'est vraiment un côté viralité. Une fois que tu as été repéré par un acteur et identifié comme experte ou en tout cas source très légitime sur ce sujet de l'influence et des arnaques, ça a été un petit peu une boule de neige, quoi.
Ben, d'autant que ça n'intéressait personne. Mmh. Ça n'intéressait personne. Il n'y avait pas non plus 50 millions de personnes qui s'exprimaient sur la question,
ouais.
et puis qui connaissaient, qui s'interrogeaient un petit peu au-delà de ce qu'on pouvait voir. Et je pense que ça a contribué aussi parce que jusqu'à présent, que ce soit dans le domaine de l'influence ou autre, il y a très peu de personnes qui s'étaient exprimées sur tout ça. Mmh. Et ça aussi, c'est pas normal. Moi, je trouve ça inacceptable que d'autres influenceurs n'aient pas pété le poing sur la table, quoi.
Tu m'étonnes.
En disant, oh les gars, ce que vous êtes en train de faire, juste, ça se fait pas. Mm. Nous, on sait ça, ce que vous faites. Vous êtes en train de voler vos communautés et c'est honteux. Parce qu'il y aurait eu ne serait-ce qu'aller 10-15 influenceurs qui auraient fait ça ensemble, en même temps, sur des stories. Ils inondent Snap et Instagram. Ça aurait fait un sacré bazar. Mm. Et plus peut-être même que Booba. Parce que la méthode aurait été différente,
ouais.
et les choses auraient été différentes. Et ça n'a pas été fait. Je trouve ça très regrettable. Mm. D'ailleurs, le nombre d'influenceurs, réels influenceurs qui ont partagé la page, je les compte sur les doigts d'une main. Mm. Vraiment, et je parle d'influenceurs à plusieurs millions. Il y en a qui l'ont fait.
Ouais.
Il y en a qui l'ont fait. Il y a des gens très sérieux qui l'ont fait. Évidemment que ces influenceurs-là et qui ne font pas partie de la télé-réalité, je les regarde avec le cœur particulier parce que pour moi, ils ont contribué à quelque chose, même s'ils ne l'ont pas fait d'une manière très... comme moi, je l'aurais fait de manière directe, quoi.
Bien sûr, ouais.
Mais ils l'ont fait d'une certaine manière et je pourrai jamais oublier cette contribution, en tout cas. Dans le domaine de l'influence, ça c'est certain.
Bien sûr. Difficile d'admettre et de prendre la responsabilité des torts et des défauts de ton industrie. Hein. Mais en tout cas, c'est une bonne manière de conclure. C'était vraiment passionnant. Ça fait hyper peur. je crois que le mot qui me vient à la fin de cet entretien, c'est bad. Non, mais en tout cas, non, vraiment passionnant de voir à quel point les stratégies mises en place tiennent du marketing et à quel point, du coup, y a une responsabilité de la part des influenceurs qui sont finalement des nouveaux marketeurs en ligne.
Ah ben clairement. Oui.
Et qu'il faut qu'ils prennent cette responsabilité et que nous, en tant que consommateurs, on a une responsabilité aussi de faire notre due diligence, en tout cas notre devoir de vérification de la véracité des informations, de la légitimité des sites sur lesquels on consomme, de la bienveillance et de l'honnêteté des gens qu'on va suivre sur les réseaux. C'est un travail collectif, c'est ça que je retiens.
Ce qui est très compliqué, parce que finalement, sur les réseaux, on peut faire tout croire
et
n'importe quoi. Et que quand on voit un influenceur, on se dit, il passe la journée sur son réseau social, mais pas forcément. Et pour l'avoir vu de mes yeux, ça leur prend pour certains à peine 10 minutes. Et on a l'impression que c'est toute la journée.
Food for thought. Mais écoute, merci Audrey pour ton intervention et ton témoignage. C'était vraiment passionnant.
Avec plaisir.
Et félicitations pour tout ce que tu fais. C'est vraiment très utile.
Oui, bah j'espère avoir encore plus d'utilité.
Bah écoute, c'est déjà pas mal, mais en tout cas, on te souhaite bon courage pour l'écriture du livre.
Merci.
Tu me diras quand ça sort et je ferai la promotion auprès des auditrices et des auditeurs pour leur partager la bonne nouvelle.
Merci.
Merci à toi, salut.
Bonne fin de journée, salut.
Alors, qu'avez-vous pensé des actions d'Audrey ? J'aurais pu parler avec elle pendant des heures de ce sujet passionnant qui est tellement important aujourd'hui. L'influence est un univers fascinant, mais dont le dark side regorge de témoignages effrayants et de victimes gravement impactées. Un rappel de plus qu'il est de notre responsabilité, en tant que marketeur, communicant, entrepreneur, mais aussi consommateur, de garder en tête que tout n'est pas permis pour vendre ses produits et ses services. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à très vite dans The Storyline.